Monsieur Richard Lyogé, session Ville de Metz, Société Habitée et groupe Claude Rison, le site de Bon Secours.
Bien, merci Monsieur le maire. Je suis très, très content et je dirais un peu fier, si vous me permettez, l'expression de rapporter sur ce point, parce que avec ce point, on va rentrer dans la vraie reconversion de l'hôpital Bon Secours avec des partenaires locaux. La motion que je vous propose rappelle un certain nombre des dates qui ont scandé la fermeture de Bon Secours. Fermeture, finalement, et sa désaffection totale très récente, il faut le rappeler. Donc, on sait dire qu'on a travaillé avec les services de manière, je pense, efficace, et avec le PFL, il faut le souligner. Tout cela dans un dialogue permanent avec la population, avec des réunions publiques, quelquefois à 150, 160, 170 personnes, et à chaque fois, un dialogue constant qui nous a amené, par exemple, à un dialogue compétitif quelques mois avant les élections de 2014, où l'atelier Lyon avait fait une proposition qui a, je crois, retenu l'assentiment général de tout le monde, avec Iris Conseil, une belle perspective, une rénovation urbaine très importante, et pas simplement, on avait évité de se focaliser uniquement sur l'hôpital lui-même. Ensuite, en juillet 2015, la ville a engagé une procédure de concertation, mais vous l'avez votée très récemment, sur la création d'une zone d'aménagement concertée. Et tout cela en temps masqué. À partir du début de cette année, nous avons aussi engagé un certain nombre de dialogues avec des sociétés de promotion pour essayer de vendre, je dirais presque de manière un peu, je dirais peut-être cavalière, au plus cher possible, puisqu'il s'agissait quand même d'aller très haut dans la valeur du foncier. On le verra tout à l'heure, enfin on peut le voir déjà maintenant, puisque globalement, mais je suppose qu'il y aura des questions tout à l'heure, on pourra rentrer dans le détail. On est sur une chaîne fixée à 31 500 et 32 500. On reviendra aussi sur le fait que c'est pas au mètre carré près, et pour un prix plancher qui avait été donné, que vous nous aviez fixé, monsieur le maire, et qui tenait compte évidemment de ce que nous devions redonner à l'EPFL, de 12 500 000 euros, ce prix comprenant, et c'est bien cette délibération que je vous propose, puisque la société habitée avec le groupe Claude Rison et le JS, il ne faudrait pas l'oublier, il n'est pas dans le titre, mais il est évidemment, cette société, le bailleur social est évidemment partie prenante de cette opération. Cette surface planchée et la somme était actuellement celle qui nous est proposée. En mettant de côté, je tiens à le souligner dès maintenant, à peu près une valorisation de 2 millions d'euros qui viendrait en plus sur l'ancien hôpital. Ce qui veut dire qu'à terme, on serait plutôt sur l'hôpital historique, évidemment, sur une valorisation, mais là, c'est peut-être aller un peu trop loin dans l'autosatisfaction, de 2 millions de plus, sachant que nous avons eu l'évaluation des domaines, et il en sera question sans doute tout à l'heure aussi avec les parkings, cette évaluation des domaines fixe avec les parkings sur cette chaîne à 10 348 075 euros, la valeur du bien, puisque, et je crois qu'on vous a déposé dans la salle de groupe cette évaluation des domaines, enfin en tout cas les services m'ont dit ça, très récemment, ce qui veut dire que, sans parler de la valorisation de 2 millions d'euros qui pourrait intervenir sur la partie de l'hôpital allemand, nous sommes 2 millions au-dessus de ce qui était évalué par les domaines pour, encore une fois, la chaîne prévue plus les parkings, puisque je pense qu'il y aura des questions sur le sujet. La motion est en conséquence.
Voilà. Alors, j'ai inscrit Monsieur Aldrin pour 2 minutes, Monsieur Gourlot pour 2 minutes. Le groupe de Madame Zimmermann, parti du centre et la droite. Donc Madame Zimmermann, Monsieur Lebeau, Madame Colin Sterlet, Monsieur Wendling.
3 minutes.
Alors on va rajouter, on va mettre, c'est pas raisonnable. On va mettre Parce que je vois 3 minutes. Comment ça se fait? C'est pas normal. La règle de 3 n'est pas normale. Là. On va mettre 10 minutes pour eux tous. Et voilà. Et puis 2 minutes pour Madame Bigot. Et puis on va mettre 15 minutes pour la majorité, si elle a besoin d'autant de temps. Alors, Monsieur Aldrin, 2 minutes, s'il vous plaît.
Oui, merci, Monsieur le maire. Monsieur le maire, je rejoins parfaitement les propos qui ont été tenus sur l'aspect positif d'une reconversion rapide. Et là-dessus, je suis tout à fait satisfait et c'est une bonne chose de voir ce site reconverti assez rapidement. On connaît positivement les 3 promoteurs qui seront ici associés. En revanche, je voudrais quand même revenir sur un point dans la procédure ici de vente. Vous avez parlé, monsieur le premier adjoint, de méthode un peu cavalière. Je ne sais pas si c'est cavalière ou légère. Puisque
je n'ai pas parlé de méthode cavalière.
Dans la valorisation, vous avez mis cavalière.
Cavalier, mais j'ai une expression cavalière, mais pas méthode
cavalière. J'ai dit cavalière, je l'ai noté.
Je vous laisse l'expression.
Et je vous exprime pourquoi. Lorsque nous avons débattu ce point en commission des finances, il était inscrit dans la motion qui nous a été présentée que dans la vente, c'était 139 places de parking. Avec l'évaluation des domaines qui était faite pour 139 places. Durant cette même commission, on nous a dit, mais finalement, ça ne sera pas 139, ça sera 120. Alors, nous avons demandé, moi-même et un certain membre de la commission des finances, à ce que nous actualisions l'évaluation des domaines sur le chiffre exact de places vendues. Et je ne vous cache pas que j'ai été extrêmement surpris, pour ne pas dire plus, de constater que dans la motion qui est finalement présentée, ce n'est plus 139, ce n'est plus 120, c'est 85 places de stationnement. Donc là-dessus, monsieur le maire et monsieur le premier adjoint, je crois qu'il y a des éclaircissements à apprécier, de la même manière que l'évaluation des domaines sur la partie terrain n'est pas la même non plus. Et ce n'est pas des évaluations des documents qu'on a eus il y a 6 mois, c'est des documents qu'on a eus la semaine dernière, hein, en commission des finances. Par conséquent, monsieur le maire, je souhaiterais avoir des précisions sur ces indications. Je trouve un peu légère au regard des enjeux et des chiffres qui inspirent ce projet.
Merci. Alors, Monsieur Gourlot.
Merci. Il y a un an et demi, l'association Ville Nouvelle organisait une réunion pour les candidats aux élections municipales sur leur projet pour leur quartier. Nous n'avons pas dévié de la position que nous avions prise à l'époque. Au contraire, les faits nous donnent raison. Voir la publication des chiffres de la vacance immobilière, Metz n'a pas besoin d'un projet, il nous semble, immobilier de 400 logements supplémentaires. Je rappelle d'ailleurs, pour une petite histoire, que l'UMP à l'époque avait soutenu cet avant-projet en 2013. Je suis d'ailleurs impatient d'écouter leur position aujourd'hui. Monsieur le maire a fait rêver les habitants avec la promesse d'équipements publics, écoles, mairies de quartier, équipements sportifs. Quand seront-ils programmés ? Sur le plan de financement de la requalification de l'ancien hôpital, il manque un chiffrage précis des dépenses déjà engagées par la ville et par le PFL qui porte le projet pour elle et de l'engagement pris par les promoteurs. Difficile pour l'opposition de se prononcer dans cette opacité. Enfin, nous sommes opposés à la vente des droits à construire pour des projets immobiliers qui ne s'harmonisent pas du tout avec le style du quartier Nouvelle-Ville. Les habitants sont pressés de voir disparaître la friche hospitalière. Pour autant, ils n'attendent pas la densification du quartier. Je vous remercie.
Merci. Ouais, c'est compliqué à comprendre ça. Monsieur Lebeau.
Monsieur le maire, chers collègues, sans parler de l'absence d'un geste architectural fort qui pourrait créer le Metz du 3e millénaire, du 21e siècle, qui n'a pas été du tout fait dans le quartier de l'amphithéâtre, qui est un quartier loupé malheureusement.
Attendez, oui, ça va venir.
Qui est un quartier loupé. Je viens sur la procédure de cession de ces droits. En commission des finances, j'ai exprimé de sérieux doutes sur le montage de ce dossier. Et je pensais obtenir les informations demandées et qui m'ont été actées en commission des finances. J'ai demandé à voir l'entièreté des offres. En commission des finances, monsieur le maire, les services m'ont répondu qu'il y avait eu des autres offres et que nous allions recevoir un tableau qui reprendrait toutes les offres. J'ai eu le directeur général des services quelques minutes avant le conseil municipal et j'ai obtenu sa réponse en me disant « Il n'y a eu aucune autre offre ». Premier mensonge qui a été fait en commission des finances et monsieur le président de la commission des finances pourra confirmer le fait qu'il a été dit par les services qu'il y avait eu des autres offres, puisque nous avons bien insisté, et Monsieur le Président pourra le confirmer, puisqu'on a demandé que si les offres étaient au-dessus ou en dessous, et il a été clairement indiqué qu'au départ, bon, et puis après, non, non, elles sont toutes en dessous. Résultat, Monsieur le Directeur Général des Services, quelques minutes avant ce Conseil Municipal, m'a dit qu'il n'y avait eu aucune autre offre. J'aimerais avoir une information concernant cette divergence de vue.
Vous allez l'avoir, vous allez l'avoir.
L'autre élément, c'est que j'ai, durant cette commission des finances, insisté lourdement sur le nombre de places de parking. Et j'ai repris l'article qui a été fait dans la presse quotidienne régionale, le Républicain Lorrain, pour ne pas le citer, où, conférence de presse, a été annoncée la cession de 137 places de stationnement. Donc, tout était ficelé, puisqu'on fait une conférence de place. Sauf que, durant la commission des finances, Mme Cossic pourra en confirmer, j'ai insisté très très lourdement sur le fait que le marché était un peu léonin. C'était pas possible de vendre autant. Et qu'est-ce qu'on apprend ? Par le tour de cette commission des finances, que ce n'est plus 137 places de stationnement. Puisque je les avais valorisées benoîtement, à plus de 10 000 euros. Comme on l'a demandé, on l'a exigé, que c'est la loi, vous avez dû les faire valoriser par les domaines, et eux disent que ça vaut 17 000 euros, sachant qu'en commission des finances, vos services ont dit que ça valait zéro. Hein, ça a été dit. Donc, je comprends que tout ceci, ça a été dit, monsieur le président pourra le confirmer, que ça a bien été dit, que ça valait rien du tout, ces places. Donc, aujourd'hui, il y a un manque, une absence totale de transparence sur ce dossier. Il faut savoir que ce marché est un marché de gré à gré, ce qui est tout à fait légal et possible. Ça, je ne reviens pas là-dessus et je ne cherche pas sur l'élément. Ce que je dis juste, que c'est une transaction de 12,5 millions d'euros, donc remarquable au niveau du montant. Cette vente se fait à perte pour la ville. Perte pour la ville, puisqu'elle achète le terrain 11,5 millions d'euros. Ça, vous pouvez me confirmer. Qu'il faut ajouter le coût de gardiennage qui sera à la ville. On m'a dit en commission des finances 1 million d'euros. Il faut ajouter le coût de dépollution. On m'a dit 1 million d'euros. Il faut ajouter une partie des coûts de déconstruction. On m'a dit 1 million d'euros. Et il faut rajouter les 85 places de stationnement valorisées 17 000 euros, ce qui nous fait un total de 16 millions d'euros. Je retire l'espace qui ne va être pas vendu, valorisé 2 millions d'euros, et j'arrive à 14 millions d'euros pour une cession à 12,5 millions d'euros. Donc, une perte nette pour la ville de 1,5 million d'euros. Ces éléments-là, je les ai explicités en commission des finances. Et tout le monde s'est dit, était interrogatif. Donc, on a vu le nombre baisser de places de stationnement. Mais même avec ce nombre de places de stationnement, puisque je l'ai refait le calcul, on arrive bien à 1,5 million d'euros, 85 places fois 17 000 égale 1,5 million. Donc, ce soir, on perd 2 millions d'euros en vendant ça. 2 millions d'euros de pertes pour la ville. Nous n'avons aucune information sur les offres qui ont été faites, visiblement aucune autre offre. Je demande simplement de reporter ce point à une date ultérieure où l'ensemble des informations que l'on a demandées, qui ont été acquiescées et autorisées en commission des finances, soient délivrées et qu'on puisse sereinement délibérer sur le fond, sur l'esthétique du projet et pas sur un aspect financier mal monté où la ville perd 2 millions d'euros. Je vous remercie, monsieur le maire.
Merci. Madame Zimmermann.
Oui, monsieur le maire. Je me souviens de mes premières interventions au moment où on enclenchait le projet. Rappelez-vous, vous m'aviez dit non, il n'y aura aucune perte. À l'instant, Emmanuel Lebeau vient de chiffrer cette perte à 2 millions d'euros. Là, je crois que c'est quand même, j'espère, la seule perte que l'on aura. Parce que, rappelez-vous, lorsque je vous ai dit que le terrain avait été sous-estimé, Vous m'aviez dit, mais non, vous n'y comprenez rien. C'est le père. Ah, bah si. Oui, non, mais attendez. De toute façon, j'y suis habitué. Hein.
Ça m'étonne.
Non, j'y suis habitué à entendre que je ne comprends rien. Que, voilà.
Vous
mais ce n'est pas grave.
Très bien.
Je comprends très bien.
Ouais.
Je comprends justement très bien que ce que je disais à l'époque est en train de commencer à se vérifier. Deuxièmement, moi, ce que je souhaiterais aussi, c'est que. On est un rapport régulier, chiffré, de l'évolution... Non, mais attendez. Vous savez, quand monsieur le premier adjoint dit « Nous travaillons très bien avec l'association », oui, vous travaillez très bien avec l'association. Et je rends hommage à l'association, d'ailleurs, parce qu'elle fait un travail extraordinaire, à la fois... de communication à la population et, je dirais, de recherche d'informations lorsqu'elle souhaite les avoir. Mais, vous savez, monsieur le maire, lorsque on donne des informations qui sont incomplètes, vous savez, il ne suffit pas de dire il y aura tant de logements, il y aura tant de logements sociaux, il y aura tant de ci, il y aura tant de ça. C'est sympathique, ça. C'est très bien. Sauf que je pense que financièrement, j'aimerais également que l'on soit un petit peu plus informé de l'évolution de ce dossier. Et à la fois ce que Jérémy Aldrin a évoqué et ce que Emmanuel Lebeau vient d'évoquer sur les places de parking, c'est un premier point, c'est des premières interrogations. Mais c'est totalement anormal... lorsque, entre la commission des finances, entre le conseil, le rapport du conseil municipal, on change trois fois de chiffres. Mais vous me prenez pour des ânes. Enfin, écoutez, je crois qu'à partir du moment où on donne une commande, mais au bout de la commande, on a ce qu'on a souhaité. Alors, en l'espace de deux jours de temps, on change de chiffre. Non, mais il y a des questions qui se posent. C'est l'argent aussi du contribuable, tout ça. Parce qu'au bout du compte, mais ça va automatiquement peser sur les finances de la ville et automatiquement peser sur les futurs impôts des médecins. Donc, s'il vous plaît, un petit peu de correction à l'égard de ceux qui vous font confiance... notamment l'association de la Ville Nouvelle, parce qu'elle fait un travail extraordinaire. Donc, on respecte les gens qui travaillent. On ne leur donne pas simplement des informations imprécises, parce que lorsque on creuse un petit peu les dossiers, d'un dossier à l'autre, il y a des informations différentes. Donc, s'il vous plaît, je souhaite vraiment qu'il y ait un rapport précis sur les dépenses qui seront engagées directement par la ville, indirectement par le PFL et tous les organismes pour le compte de la ville. Et je souhaiterais vraiment que, pour le prochain conseil municipal, on soit en capacité d'avoir noir sur blanc ces chiffres et pas des chiffres qui changent entre la commission des finances et le conseil municipal, et j'espère qu'ils ne vont pas changer au prochain conseil municipal.
Merci. Madame Collin-Osterlé.
Très rapidement, parce que beaucoup de choses ont été dites. Effectivement, donc on a une première motion avec un certain nombre de places de stationnement et qu'arrive une seconde motion avec plus ou le même nombre de places, on se pose effectivement quelques questions et là-dessus on attend des explications. La deuxième chose, c'est effectivement la vente à perte et là aussi on attend des explications. Il y a quand même une perte de 2 millions. Non mais c'est important.
Vous allez les avoir. Il n'y a pas de perte, il y a même des gains. Mais on va expliquer.
On attend ça. Mais la troisième chose aussi. C'est la renonciation du promoteur à la clause suspensive de commercialisation. Bon. Très sincèrement, je n'ai jamais vu un promoteur qui commençait à construire sans avoir commercialisé une grosse partie de ses lots, ce qui semble tout à fait logique d'un point de vue purement économique pour un promoteur. Mais moi, ce qui m'étonne un peu, c'est que nous avons demandé... outre les informations qui ont été demandées en commission des finances qui n'ont pas été données ou qui ont été données de manière erronée, nous avons demandé la transmission du compromis pour au moins avoir effectivement la teneur des engagements exacts du promoteur. Il y a eu un refus total de nous le transmettre et un refus total de nous faire connaître finalement exactement les engagements de manière précise du promoteur qui est aujourd'hui retenu. Donc voilà, moi je pose des questions. Il est tout à fait normal que sur une opération comme celle-là, des questions soient posées. Et surtout, nous attendons des réponses concrètes. Merci.
Merci. Non, il y a encore un intervenant, Monsieur Wendling. Vous avez quelque chose à rajouter?
Oui, je rajouterais juste une chose. Parce
pour
que
le même groupe, quatrième orateur inscrit. Allez-y.
Le problème, c'est que je crois évidemment qu'on est sur ce point, mais ça a été dit en pleine opacité. Opacité qui est d'ailleurs un petit peu maintenant la marque de fabrique de la municipalité. Opacité sur les piscines, notamment sur la piscine Lothaire. Tout à l'heure, Belkir a fait 10 minutes d'intervention, pas un mot sur la piscine Lothaire. Opacité à Metz Habitat Territoire. Opacité sur ce dossier. On nous a expliqué pendant des années qu'Eiffage allait gérer le dossier, que tout marchait bien, que ça allait être commercialisé, etc. Aujourd'hui, on nous explique qu'il y a des nouveaux promoteurs, des promoteurs privés. On nous présente un projet sans aucune maquette, sans aucun plan, sans savoir où on va. On nous ramène effectivement, on l'a dit, des chiffres qui varient en fonction de la commission, enfin au fil de la commission des finances sur les parkings, etc. Donc je crois sur ce dossier qu'on est là aussi en pleine opacité. Et je le regrette et c'est pour ça que je m'abstiendrai sur ce point.
Très bien. Merci. Madame Migaud.
Merci, Monsieur le maire. Je voudrais profiter de ce coup de projecteur sur l'aménagement prévu de Bon Secours pour montrer combien il est nécessaire d'approfondir notre réflexion sur l'habitat des seniors. La mission Ville pour tous a organisé le premier forum Habitat des seniors le mardi 20 octobre, contribuant ainsi à accompagner les seniors dans leur réflexion quant à la vie qu'ils veulent se préparer demain. À Bon Secours est prévue une résidence senior. Ce quartier va être richement pourvu par ce type d'habitat. L'une va bientôt ouvrir au croisement de la rue Saint-Jean et de la rue Charles-Petre. Une autre est prévue rue du 20e Corps américain et jamais 203 avec celle de Bon Secours. Ceux qui ont de l'argent à placer connaissent les avantages fiscaux dont bénéficient ces résidences et les propriétaires attendent autour de 4% de rentabilité selon la bonne gestion de l'exploitant. Je ne conteste pas l'intérêt de ces résidences seniors pour une partie de la population senior messine, et très certainement non messine, mais il s'agit bien d'une petite partie de notre population. Quelques chiffres pour rappeler la réalité. À la résidence Les Jardins d'Arcadie, qui va donc bientôt ouvrir en mars 2015, location d'un studio 758 euros, T1 bis 1035 euros, T2 1237 euros, T3 1602 euros. Des appartements meublés et a priori les charges sont comprises. Certains seniors messins ou non messins, donc, qui voudraient se rapprocher du centre-ville, pourront s'offrir ce type d'hébergement. Mais rappelons que la pension de retraite nette moyenne est autour de 1200 euros, hommes et femmes confondus. Rappelons également qu'à Metz, un ménage sur cinq est en situation de pauvreté. Rappelons également que 41,3% des ménages de 65 ans et plus à Metz sont composés d'une personne seule et le plus souvent des femmes, celles-là même qui ont les moins de revenus à la retraite. Alors permettez-moi de me soucier de l'ensemble des seniors messins, y compris ceux qui auraient les moyens d'aller en résidence senior, mais qui envisagent leur retraite autrement. Où et comment peut-on envisager de vivre ce train de la retraite ? Les promoteurs des résidences seniors ont tout compris, à proximité des services, des transports, des commerces, des lieux d'animation et de participation. Quel type de logement ? Le T3 remporte les suffrages, aussi bien pour les couples que pour les retraités. Pour les couples, cela permet de faire chambre à part, monsieur ou madame ronfle. Pour les personnes seules, cela permet de recevoir ses enfants ou petits-enfants. Les studios sont loin de déclencher l'adhésion. C'est dur de s'alléger, de se dépouiller de ses souvenirs, même si en vieillissant les déplacements se rétrécissent, on ne peut pas demander aux âgés de se résoudre au confinement. Comment concilier revenus modestes, habitat propice au bien vieillir, lutte contre la solitude ? Les retraités ont-ils tous envie de se regrouper dans des lieux dédiés ? Est-ce bien entre eux qu'ils vieilliront le mieux ? avec pour perspective la transformation de la résidence senior en EHPAD. La plupart des seniors veulent continuer à avoir des liens avec toutes les générations. Le rêve le plus partagé, c'est un logement adapté et accessible au cœur de l'ensemble des composantes de la société dans une ambiance apaisée. Mais nous allons certainement devoir innover quant à la conception des logements et prévoir de nouvelles répartitions des espaces. La future génération de retraités a inauguré la colocation étudiante dans les années 70. Peut-être initiera-t-elle la colocation des seniors. Enfin, seniors comme famille ou jeunes ont besoin d'espaces de convivialité pour un repas, une fête, et j'aimerais vraiment que les promoteurs, du privé comme du parc social, réfléchissent à des immeubles conçus avec ces espaces de rencontre et d'autres espaces de partage. Buanderie, local de bricolage, parking pour le vélo, etc., jardin. On doit imaginer des 4 pièces ou des 5 pièces qui ne soient pas seulement à destination des familles, avec des chambres dites pour enfants qui sont souvent petites, mais des chambres un peu plus spacieuses permettant à des adultes de cohabiter dans le respect de l'indépendance de chacun. L'horizon de ces évolutions, les manières nouvelles de concevoir l'habitat et plus largement l'urbanisme, c'est pour aujourd'hui, car dans les 10 années à venir, vont arriver à l'âge de la retraite les personnes nées à la fin des années 50 et dans les années 60, qui devront avoir travaillé 41 ans et demi, voire 42 ans, pour prétendre à une retraite sans décote. Les femmes de cette génération qui auront eu des carrières entrecoupées de périodes où elles auront interrompu leur activité professionnelle, par exemple pour élever leurs enfants, qui sont nombreuses à vivre seules, car cette génération est la première à avoir osé divorcer, ne pourront pas rester dans la vie active jusqu'à 65, 67 ans. Car n'oublions pas que si l'espérance de vie est de 85 ans pour les femmes françaises, l'espérance de vie en bonne santé est de 63 ans et demi. Quant aux hommes, l'espérance de vie en bonne santé est de 62 ans. Avec bien sûr des écarts en fonction des catégories socio-professionnelles, des écarts importants. Merci. Le défi que nous avons à relever, c'est bien l'adaptation de notre ville au vieillissement de la population et de permettre à toutes les générations de se projeter avec confiance et responsabilité dans l'avenir. Merci.
Merci. Alors, reste comme orateur inscrit M. Scudéry, M. Lecadir.
M. Scudéry.
Monsieur le maire, chers collègues, je souhaite simplement souligner la dynamique de ce projet, d'abord en évoquant la réactivité de la ville et la rapidité du traitement politique sur ce dossier. Pour cela, il convient de vous rendre hommage, monsieur le maire, ainsi qu'à votre premier adjoint, car l'audace de ce choix politique que représenter... le rachat de l'emprise était un pari et un pari osé. Celui-ci est en passe d'être gagné. Je pense aux questions soulevées par des habitants et même par notre opposition. La ville rentrera-t-elle dans son investissement? Rassemblera-t-elle assez d'investisseurs privés? Le contribuable est en droit de se questionner. Et Richard Lioger nous rassure sur ce sujet et nous montre que lorsque la volonté politique est présente, il n'est pas obligatoire de subir l'outrage de sites désaffectés qui défigurent nos quartiers durant des décennies. Je tiens également à souligner la dynamique citoyenne. Et si vous pouvez arrêter de parler derrière moi, ce serait plus pratique. Je tiens également à souligner la dynamique citoyenne dans laquelle s'inscrit ce projet, avec la mise en place d'un dialogue compétitif, en effet, dès 2013, et je salue Patricia Sallusti, qui en avait été la chef d'orchestre, et d'une grande démarche de démocratie participative qui continue auprès des citoyens. Ainsi, comme l'a dit Richard Lioger, c'est par centaines que les médecins se pressent aux rencontres que nous leur proposons, tantôt inquiets, tantôt curieux, mais jamais indifférents. Les habitants de Nouvelle-Ville ont su s'approprier ce projet et nous questionnent régulièrement quant à son devenir. Alors, on parle souvent de rythme ou de différence entre les temps, celui des citoyens, celui des responsables politiques et celui de l'administration, mais force est de constater que ce site bouge, que Nouvelle-Ville va se redessiner au grand bonheur de ses habitants, tout cela dans le respect des médecins et dans une dynamique participative. C'est l'occasion de prouver aux habitants qui se considèrent délaissés, je pense à une enquête qui avait été menée dans le quartier l'an passé par Ville Nouvelle, que la puissance publique est bien présente et attentive au devenir de chaque quartier et de chacun de ses habitants. Et à travers ces avancées, nous allons pouvoir aussi conforter cette ambiance de quartier-village que nous appelons de nos voeux et qui était un engagement de campagne. Je vous remercie.
Merci, Monsieur Scudéry. Monsieur Descadir.
Oui, Monsieur le maire, chers collègues, nous sommes là sur un point qui est extrêmement stratégique, peut-être l'un des points les plus importants de ce mandat. Nous avons là au cœur de ville une friche qui aurait pu rester pendant des années et des friches à Metz qui sont restées des années et des années, on en a connu et on en connaît encore. Et je trouve que le travail qui a été fait est remarquable parce qu'en l'espace d'un délai extrêmement court, nous arrivons à trouver là une solution et nous assistons de la part de notre opposition à un débat qui est à mon avis pas du tout au niveau. Calcul de boutiquaire, on assiste même à ceux qui nous demandent de reporter le point, et puis le fameux couplet maintenant auquel nous sommes ici habitués, suspicion, opacité, c'est une espèce de refrain qui est à la fois insultant pour les élus que nous sommes, mais au-delà de nous, j'allais dire, nous avons l'habitude de ces injures, finalement. Qu'en est-il des partenaires privés, de ces entrepreneurs locaux, messins, lorrains? Parce que si nous sommes, nous, dans quelque chose qui est louche, ils le seraient avec nous. Donc, je trouve que vos propos sont irresponsables, parce qu'à travers l'attaque que vous faites sur les élus que nous sommes, et d'une certaine manière, vous alimentez votre voisin qui est de gauche, là, sur vos bancs. Vous les alimentez, mais au-delà de nous, c'est bien évidemment une attaque indirecte en direction de ces entrepreneurs qui ont le courage d'investir à Metz. Et au lieu d'être fiers, vous, finalement, vous les accablez d'une suspicion. Je le dis, ce n'est pas au niveau des enjeux. Et d'une certaine manière, vous nous avez habitués à finalement ne pas avoir de vision pour la ville, de proposition pour la ville. Il suffit de regarder votre programme de 2014, qui était d'une certaine manière assez vide en termes de propositions. Et aujourd'hui, ça ne fait que confirmer finalement ce sujet-là. Alors, en période de crise, je crois qu'il faut se réjouir de ce résultat, parce qu'il nous permet ici à Metz de ne pas avoir de friche. Et nous savons que c'est peut-être ce qui vous gêne, que sur ce plan-là, nous sommes bons et nous sommes même très bons. Il suffit de regarder l'usine des tabacs, il suffit de regarder TCRM Blida, il suffit de regarder aujourd'hui Bon Secours ou encore l'amphithéâtre, parce qu'il y a là une volonté politique et un savoir-faire qui fait que les opérations sortent dans un contexte qui est difficile et nous réussissons à les sortir. Alors probablement ça vous gêne et vous ressortez le refrain habituel sur la suspicion ou sur une supposée perte d'argent de la ville. Je laisserai Richard Liauger le préciser, mais c'est une opération blanche avec un audace politique d'avoir pris cette opération là et d'avoir pris des risques, et nous sommes là dans un résultat exceptionnel. Et allez expliquer aux habitants qu'on a le temps, qu'il faut reporter le point, parce que eux, les habitants, ils sont contents et ils soutiennent cette opération.
Merci. Monsieur Liauger, s'il vous plaît, pour répondre.
Alors bon, d'abord
laissez parler le rapporteur, s'il vous plaît.
Monsieur le maire, chers collègues.
Laissez parler le rapporteur.
Je voulais vous dire. Monsieur le maire et chers collègues, je voulais vous dire que c'est vraiment avec beaucoup de plaisir que je réponds à l'ensemble de vos questions, que je trouve légitimes, il faut le dire, même si on a... Voilà. Laissez-moi terminer. Même si à certains moments, vous avez laissé poindre un petit peu de suspicion ou de choses, mais bon... C'est bien dans votre style, mais en tout cas, bon, on va clore la polémique là-dessus. Je vais essayer de vous répondre, les uns et les autres, et essayer de vous convaincre même de voter pour ce point. Et en répondant, évidemment, financièrement aux questions de M. Lebeau. D'abord, M. Wendling,
Alors c'est extraordinaire, parce que vous connaissez extrêmement mal vos dossiers. Eiffage, c'est le 20e corps américain. C'est un autre dossier, c'est pas du tout ça. Vous nous parlez d'Eiffage, mais je veux dire, monsieur Wendling, essayez un peu de travailler sur vos dossiers. Il s'agit tout simplement effectivement d'une offre de gré à gré, là aussi, qui a été faite entre la société Eiffage et le CHR. Nous ne sommes pas intervenus là-dessus, et Eiffage ne s'est jamais intéressé, et il n'y a jamais eu à aucun moment, nous n'avons parlé d'Eiffage ici ou ailleurs. Donc, monsieur Wendling, travaillez vos dossiers et revenez avec cette connaissance des dossiers. À la prochaine fois.
Merci.
Par rapport à Madame Colin-Oster, les clauses suspensives, bon, on est bien d'accord, c'est une clause suspensive, vous êtes un peu dans le métier, donc vous savez, effectivement, suspend, comme c'est dit, l'acte de vente définitif au fait d'avoir pré-commercialisé. En général, c'est entre 50 et 60%. Vous me dites, ça n'arrive jamais. Ben, écoutez, je vais vous dire, allez voir la société Rizon avec la SAREM. Elle a acheté avec Ports en Parts, sans clause suspensive, elle a construit sans pré-commercialisation, et la société Rizon, qui est aussi le partenaire ici, a suffisamment de fonds propres, comme c'est le cas aussi de Stéphane Noël sans doute avec Habité, pour partir sans clause suspensive de pré-commercialisation. Je sais que c'est très rare, je sais que les grands groupes ne le font pas, par exemple Eiffage, parce que, évidemment, pour mobiliser autant de fonds propres, moi c'est ce que j'ai compris sur...
Laissez parler l'orateur, s'il vous plaît. Non, pas de dialogue, c'est moi qui donne la parole. La parole est à M. Lieuger.
Écoutez, c'est un élément essentiel, parce que je vais dérouler l'histoire de la négociation de gré à gré et vous éclairer sur le sujet. C'est un des éléments qui a fait qu'à un moment donné, ni la société Altarea Cogedim avec de Mathieu Hébard Immobilier, ni Kaufmann & Borg n'ont pu suivre les propositions qui avaient été faites par la société Rizon et la société Habité. Sur cette cause suspensive, c'est quand même un élément essentiel. Vous parliez d'Eiffage tout à l'heure. Aujourd'hui, s'il y a eu 2 ans de retard sur cette opération, c'est qu'il y avait bien une cause suspensive dans la commercialisation pour Eiffage auprès du CHR. Et le CHR, oui, et non seulement ça, mais en plus Eiffage, au bout d'un an et demi, est revenu négocier le prix du foncier. Donc c'est toute la différence. Retenez bien cet élément, il est essentiel dans la démonstration pour le reste. C'est l'argent du contribuable, Madame Zimmermann, et vous avez raison, et nous en avons conscience, tout à fait. Et c'est pour ça que nous sommes passés, alors peut-être évidemment c'est pour le coup un peu cavalier, de 135 places de parking à 85, parce que nous avions évalué aussi, comme vous, à peu près à 10 000 euros la place de parking. Là-dessus, vous êtes à peu près juste, hein, même si on peut imaginer qu'un parking qui ne sert à rien aujourd'hui, comme ça a dû vous être dit, à un moment donné, on peut imaginer que ça ne vaut pas grand-chose. Mais bon, mettons que la place de parking est... Et on a été très surpris de voir 17 000 euros revenir de l'évaluation des domaines. Et là, pour le coup, vous auriez eu raison, parce que ça plombait l'économie de l'opération. Vous auriez eu raison. Sauf que nous sommes allés revoir les promoteurs et nous leur avons intimé l'ordre, d'une certaine manière, de descendre à 80. Mais oui, mais c'est aussi comme ça que ça marche, si vous voulez. Excusez-moi. Si on n'a pas l'épée dans les reins à un moment donné, effectivement, on n'a pas de nécessité d'aller négocier. Donc, on est passé de 135 à 85. Et je le ferai la démonstration tout à l'heure, on fait une économie de 850 000 euros sur cette évaluation. Et on verra après, effectivement, la question des parkings et la question des logements. Mais avant de revenir sur cette question et de vous faire la démonstration, que, y compris d'ailleurs dans le cadre d'un futur bilan prévisionnel de ZAC, parce qu'il ne faut pas réagir uniquement sur la vente. Vous avez eu raison d'intégrer un certain nombre d'éléments comme la dépollution, le gardiennage, etc., etc., qu'on va intégrer, mais qu'on va intégrer quand? On ne va pas l'intégrer maintenant. On va l'intégrer dans un bilan. C'est pour ça qu'on vous a demandé la dernière fois de voter pour la création d'une ZAC, c'est-à-dire que vous allez avoir ce que Mme Zimmermann demande, ce que vous demandez tous, que légitimement
tout le monde demande, à savoir un compte-rendu annuel d'activité, eh bien oui, qui est la transparence la plus totale dans les actes, je suis désolé, des actes et des actes de la ville. C'est-à-dire qu'à un certain moment, eh bien, on va vous donner les éléments qui vous permettront justement de suivre pas à pas les éléments qui auront été, et je termine un peu là-dessus sur ce sujet, qui auront été effectivement actés dans un acte juridique qui ne peut intervenir, vous nous demandez de vous le donner, mais on vous demande l'autorisation de passer à l'acte juridique. Donc on ne peut pas avoir l'acte juridique avant d'avoir l'autorisation d'y passer. Enfin, Madame Collin-Serlet dit à tout le monde que c'est quand même comme ça que ça se passe. Et évidemment, vous aurez la capacité de juger de cette capacité, évidemment, et ensuite de s'engager dans cette opération. Alors, je passe sur le fait que les services, alors, il y a eu aussi un petit peu une remise en cause des services ou de la parole des services. On va dire qu'on ne s'est pas compris lors de la commission des finances, malheureusement, je n'y étais pas, mais les services ne vous ont évidemment pas proposé de vous montrer les autres offres financières, et pour la raison suivante, je vais vous le dire. On a mené, vous en avez parlé, une négociation qu'on appelle de gré à gré, c'est-à-dire qu'on a pris, on a fait d'abord un appel d'offres assez large auprès des opérateurs qui pouvaient être intéressés, et comme je l'ai dit dans la conférence de presse, il y a trois groupes. On souhaitait avoir des groupes et ne pas négocier îlot par îlot, 5000 m² par là, 4000 m² par là, etc., etc., parce que c'est trop compliqué. Sur la ZAC de l'amphithéâtre, c'est compliqué. Donc là, on voulait faire une opération. Quelqu'un a parlé tout à l'heure, je crois que c'est Hassan Le Kadir, de l'opération des tabacs. Donc on voulait avoir effectivement ce même genre d'opération globale. Donc on demandait facialement quelqu'un qui puisse représenter un groupement. Donc il y a trois groupements qui se sont présentés, Altarea Cogedim, avec De Mathieu Hébard Immobilier, et Kaufmann and Board, qui sont deux gros groupements nationaux qui se sont intéressés. Et nous avons fait visiter, nous avons donné une sorte de cahier des charges, qui est la chaîne que nous estimions possible de développer depuis le projet d'Yves Lyon, c'est-à-dire 31 500 m², et un prix plancher. Ce prix plancher, c'est celui de 12 millions, effectivement. Et nous avons discuté avec les uns et les autres, et c'est pour ça que je parlais de la condition de suspensive, de pré-commercialisation. Les seuls qui sont arrivés avec à la fois un prix plus qu'avoisinant, puisqu'à mon avis, il est même de 12 440 000, et sans clause suspensive, c'est la société habitée avec le groupement qui était fait. Donc, les autres n'ayant pas pu s'aligner, puisque c'était dans une forme de discussion, il est clair que c'est effectivement cette proposition que nous faisons. C'est la seule qui a été faite. Alors, écoutez, les services disent que ce n'est pas vrai. Et je peux vous dire que ce n'est pas le genre de négociation que j'irais faire tout seul. J'étais à chaque fois accompagné par les services. On a discuté avec eux précisément. Ça a été assez vite. On est assez vite arrivé dans le bureau du maire au mois de juin pour lui faire valider cette offre. Et je pense qu'aujourd'hui, j'espère vous en convaincre par la suite, effectivement, que c'est une bonne offre d'un point de vue financier. Alors, je le disais tout à l'heure sur les aspects financiers, mais bon, s'il y a d'autres questions sur cet aspect, je pourrais aussi répondre. La proposition financière du groupe Habité, elle est de 12 442 500 euros. Le stationnement et les surfaces qui comprennent une accession à la propriété, non, sans les stationnements, pardon, une accession à la propriété de 450 euros et des logements aidés à 230 euros du mètre carré. C'était l'offre faciale. Et évidemment, il n'y avait pas, à l'époque, l'histoire des parkings qui va venir, on en parlera ensuite, gréver d'une certaine manière. C'est pour ça qu'on a essayé de faire baisser la quantité de parking. L'évaluation des domaines, elle est, alors, l'accession, c'était 450, elle est de 315 euros. Pour l'accession et pour le logement aidé de 180. C'est-à-dire qu'on fait les domaines, Patrick Thiel serait là, il le dirait, ils ont été voir ce qui se pratiquait sur la ZAC de l'amphithéâtre, ils ont dit voilà. Et évidemment, la place de parking évaluée à 17 000 euros, comme j'ai dit tout à l'heure, est minimisée pour ce qui nous concerne, puisque c'est la délibération que nous vous proposons, de 85 places de parking. Ce qui veut dire que À un moment donné, quand on réintègre la question des parkings dans l'offre d'habiter, ce qu'il faut effectivement faire, et vous avez raison de le dire, on ne tombe pas une chaîne à 450 euros, mais une chaîne à 405 euros, ce qui est quand même déjà presque 25% au-dessus de la chaîne qui est payée sur la ZAC de l'amphithéâtre. Un logement aidé, bon, ça pour le coup, on est toujours à 180 euros. Et des places de parking, c'est-à-dire 17 000 euros multipliés par 85, à 1 445 000 euros, comme ça vous est proposé. Le total cumulé de ce que va payer le groupe Habité et ses conjoints, si je puis dire, est de 12 430 euros 625, ce qui effectivement nous amène à 2 430 000 au-dessus de l'évaluation des domaines. Je vous accorde que cette évaluation des domaines est un chiffre formel et qu'il ne recouvre pas tout ce qui doit être rendu, notamment à l'EPFL. Eh bien, sur le budget prévisionnel équilibré de la ZAC Bon Secours que j'ai demandé de faire au service assez rapidement, on a évidemment une acquisition de l'EPFL à 11 500 000, le frais de portage EPFL à 1 million, gardiennage, gestion, assurance, vous aviez raison, les frais d'études, travaux EPFL, des amiantages à 1 million 350 000, total d'acquisition 13 850 000. On peut rajouter dedans l'étude urbaine qui nous a coûté 200 000 euros, les travaux d'études et les travaux de la diagonale que nous rajoutons dedans, qui sont de 1 850 000, parce que je ne parle pas de la voirie extérieure, je parle de la diagonale qui est essentielle dans cette opération, ce qui nous amène à un total de dépenses de 15 900 000 euros, ce qui peut être considéré comme le budget de la future ZAC. Évidemment, on est loin, vous allez me dire, des 12 430 000, sauf que... Pardon ? Non, les recettes prévisionnelles... Non, on va revenir là-dessus, mais c'est pas... Déjà réalisé 800 000 euros, les premières cessions 12 500 000, la valorisation du bâtiment ancien, et c'est ça que vous oubliez, c'est 2 millions, et la valorisation des parkings restants, 600 000 euros. Et j'arrive, pour ma part, à 15 900 000 euros, c'est-à-dire un total recette exactement équivalent, ce qu'il faut faire. Alors, c'est toujours formel, évidemment. Vous allez me dire, est-ce que vous y arriverez ? C'est comme sur la... Voilà. Eh bien, on est exactement à l'équilibre pour ce qui concerne les dépenses et les recettes sur un budget ou un bilan prévisionnel équilibré de la ZAC de l'amphithéâtre. De Bon Secours.
Merci, monsieur.
C'est un peu long, excusez-moi, mais
je voudrais retenir de l'intervention de Hassen Lekadir que c'est sans doute un point des plus importants de ce mandat, puisque effectivement, j'ai eu comme maire de Metz et comme président du conseil de surveillance de l'hôpital un cas de conscience, qui était celui de l'évaluation de cette friche hospitalière, qui a mis beaucoup de temps à se libérer. Contrairement aux apparences, parce qu'elle est restée occupée par des activités médicales au moins un an et demi après la fermeture de l'hôpital. Et nous avons finalement fini par décider, en mon fort intérieur, puisque c'était comme ça que ça se passait, d'être en dessous de l'évaluation des domaines de l'époque, mais au-delà des 11 millions qui avaient été envisagés, on a accepté de financer 11,5 millions. Je ne voulais pas, ici, que nous prenions d'une façon ou d'une autre une substance financière relevant de la santé publique et de l'hôpital. Et en même temps, je ne voulais pas gruger les intérêts de la ville de Metz dans cette opération Bon Secours extrêmement difficile et dangereuse. Je rappelle que des friches, il y en a certaines qui sont restées très longtemps. Hassen Lekadir en a cité, mais j'en vois d'autres. Rappelez-vous l'Arsenal 3, qui est resté en friche pendant à peu près 25 ans. Rappelez-vous le boulevard de Trèves, qui est resté en friche pendant je ne sais pas combien d'années, 30 ans, et qui faisait une entrée épouvantable de la ville de Metz. C'est un travail redoutable de réussir à gérer les friches. Et moi, je dois rendre hommage à Richard Lieuger et au service. Oui. Je vais en revenir parce qu'on en parle un peu trop des services en indiquant qu'ils ont menti. Ça me chauffe les oreilles. Alors, oui, beaucoup même. Je voudrais rendre hommage aux services parce que c'est eux qui nous font des propositions. C'est eux qui accompagnent Richard Lieuger dans ses discussions avec les promoteurs. Et en réalité, nous avons de la chance ici à Metz et en Moselle d'avoir des promoteurs installés localement, d'avoir des promoteurs qui ont en plus de ça des moyens identifiés. L'explication sur le groupe Prison qui a construit en blanc toute une opération importante rue Lothaire, c'est exceptionnel. Les promoteurs ordinaires n'investissent jamais sans avoir vendu la moitié de ce qu'ils n'ont pas encore commencé à construire. C'est ça la règle du jeu. Ici, nous avons des gens qui savent prendre des risques avec nous. Pourquoi prennent-ils des risques avec nous? C'est ça la question. Eh bien, parce que justement, ils ont confiance dans la ville de Metz, ils ont confiance en son développement. Monsieur Gourlot, par moments, vous faites des poèmes, mais n'en faites pas tout le temps de la poésie. Vous nous expliquez qu'il vaut mieux rien mettre et dédensifier. Mais vous croyez que, si près de la gare, dans un quartier aussi intéressant, l'avenir des villes, c'est de démolir et de ne rien mettre à la place? Je suis étonné de votre part. Quelquefois, je trouve que vos raisonnements ont un certain intérêt, malgré le fait que vous soyez d'extrême droite. Mais là, je ne comprends pas. On est obligé dans une ville, on est en compétition avec les autres villes. Et même, ça a été dit tout à l'heure, avec les villages des environs. Nous pouvons faire des logements de qualité. Il y a une opération, avenue d'Austrasie, les mêmes. C'est également le groupe Habité, je crois bien. Eh bien, ils ont proposé des logements, permettez-moi de dire, de luxe, complètement privés. Après, à pratiquement 4000 euros le mètre carré, ils ont tout vendu. Et j'ai rencontré le responsable de Habité, il m'a dit, c'est dommage, j'aurais pu mettre plus fort, j'ai demandé quand même. Il y a aussi une volonté d'habiter dans ce quartier-là, d'être près de la gare pour des gens qui travaillent au Luxembourg, etc. Et donc, nous n'allons pas sacrifier un foncier pareil. Rendez-vous compte un peu de l'énormité de ce que vous dites. Enfin, je vous explique comment ça marche. Il y a des logements qui sont en mauvais état, les gens les désertent. Il y a des logements qui ne sont pas chauffables, pas isolés, qui ont des systèmes de chauffage électrique dégradés, les gens les désertent. Et c'est tant pis pour les propriétaires. C'est normal de déserter ce type de logement. Et ils vont habiter dans des logements qui sont en bon état. C'est la raison pour laquelle méfiez-vous de la vacance. Il n'y a pas une vacance qui est équivalente aux logements neufs qui sont créés. Les logements neufs, ils sont tout le temps occupés. Regardez ce qui s'est passé dans la maternité Sainte-Croix. Mais attendez, les gens, ils sont heureux comme ça, avec des sourires jusqu'aux oreilles. Et il fallait pas... Non, ne construisez pas, arrêtez, il y a des logements vides, ne faites pas ça. Mais les gens sont heureux, c'est magnifique. Et ils sont contents d'avoir une toute petite facture de chauffage, parce que c'est des appartements... Non, je parle à M. Gourlot, parce que je lui explique pourquoi il faut construire. Et en plus de ça, quand on m'explique que la population de Metz diminue, j'ai bon espoir, on est remonté de 9100 personnes dans les écoles à 9700. Alors, un jour, on fera les additions... Et on verra si l'effort dans la durée, merci encore à nouveau Richard Liogé, l'effort dans la durée ne finit pas par payer. Alors moi je voudrais dire que, on avait un parking sur les bras qui ne servait presque plus, premièrement. Il est à nous, certes, ça vaut peut-être 17 000 euros, c'est les domaines qui le disent. Mais il n'y a plus de clients, il n'y a plus personne qui en veut. On trouve, hop, une occasion de le valoriser par des gens qui n'ont pas besoin de faire des fouilles, d'aller retrouver l'ancienne abbaye Saint-Arnoux ou l'abbaye Saint-Symphorien et de nous mettre des fouilles qui auraient duré un an et demi ou 2 ans. Et donc, premièrement, on valorise. Deuxièmement, mais on n'est pas obligé d'aller en profondeur et de faire des sous-sols très profonds et ça nous fait, et on fait juste un niveau, exactement. Deuxièmement, on valorise un patrimoine qui est en déshérence. C'est le parking Saint-Thiébaut qui était en déshérence parce qu'il ne servait plus. J'ai ici les courbes, permettez-moi de vous le dire. Voilà les courbes, le parking Mauduit, effectivement. De 400, on est presque arrivé à 430 000 euros, c'était en 2011, hein, et on était là à moins de 250 000, à 240. Voilà ce qui se passe, c'est un parking qui est en... Bon, alors, je me souviens qu'à l'époque, il avait été dit qu'un promoteur le construirait. Non, il nous appartient, c'est nous qui l'avons payé, ville de Metz. Hein, et actuellement, il ne rapportait pas du tout ce qui était en droit d'attendre. On trouve des promoteurs qui non seulement investissent avec leur argent, nous disent « je ne mets pas de conditions, je prends tout de suite, hein, je vous compense la somme importante que vous avez consentie à l'hôpital Bon Secours, à l'hôpital au CHR, hein, et on y va tout de suite dans la foulée ». Moi, je dis à Richard Liogé et à ses équipes, et à M. Fayol, et à M. Lafou, bravo. Et je le dis ici avec fierté, effectivement, on fait le boulot. Alors, si vous voulez des explications, vous allez en avoir, parce que ça ne va pas être triste. Hein. En novembre, c'est-à-dire dans un mois, on crée la ZAC. Donc, vous pourrez parler autant que vous voudrez. Vous aurez les additions que Richard vient de vous donner. Il y a une feuille ici, elle est à disposition de la presse, si elle en veut, c'est disponible. Deuxièmement, en juillet 2016, on aura les dessins d'architectes et on aura les modalités détaillées. Et les dépôts de permis de construire. À la mi-2017, on se reverra et ce sera la fin des démolitions. Hein, comme on est en train de faire en ce moment avec les immeubles de la SNCF qu'on détruit pour mettre en place le centre des congrès. Et puis la vente effective et définitive, ce sera à l'été 2017. Donc n'ayez crainte, On se reverra souvent. Vous aurez toute la ZAC à chaque fois. On fera un bilan. C'est obligatoire. Et donc, vous voilà rassurés, j'espère. C'est un bon projet. Deuxièmement, il est bien financé. Parce que très souvent, quand il y a des opérations comme ça, voyez la ZAC de l'amphithéâtre. Combien de millions, de dizaines de millions on est obligé de mettre pour gérer les voiries, pour gérer tout ce qu'on a à faire. Là, on a aussi des travaux importants. C'est sur les environs. Vous savez, c'est compliqué de remodeler une ville. Hein. Et en général, c'est difficile de demander à celui qui paye la maison de payer également le développement de la ville autour. C'est ce qu'on est en train de constater à la ZAC de l'amphithéâtre, où il y a beaucoup d'argent qui ont été mis, sur décision de mon prédécesseur, mais je suis. Hein. On a mis beaucoup d'argent pour organiser la gestion globale de ce quartier avant de vendre la Chaune. Et je dirais enfin, c'est quand même incroyable, le quartier de l'amphithéâtre, on dit déjà que tout est très cher, hein, et là on est autour de 25% au-dessus du prix de la Chaune pour les logements privés. Alors que pour les logements sociaux, on est au même prix, et beaucoup plus bas. C'est-à-dire que nous faisons des logements sociaux systématiquement, c'est 180 euros le mètre carré, que ce soit ici, tout près de la gare, tout près de... pour ceux qui prennent le train, un avantage très important. Hein. Nous avons donc une opération qui intéresse des gens qui ont les moyens, qui sont des gens locaux. Moi, je suis très heureux d'avoir des promoteurs parmi nous qui font confiance à la ville. Les architectes également sont locaux, ce qui est extrêmement intéressant parce qu'on a besoin d'avoir de l'économie circulaire, comme on dit, et de faire travailler les nôtres. Et tout ça, eh bien, vous aurez régulièrement... Nos entreprises aussi.
De BTP sera peut-être local, on ne sait pas.
L'entreprise de BTP, bon, on va voir. Hein. Mais de toute façon, c'est quand même bien des gens qui sont localement, parce que le BTP, ça ne voyage pas tellement. Hein. Et même s'il est... Voilà. Et pour terminer, je voudrais dire que j'avais grand peur. Je n'ai pas dit deux mots de l'EPFL, Madame Zimmermann. Vous avez raison de poser la question. L'EPFL, c'est un outil exceptionnel qui était peu utilisé par la ville de Metz jusqu'à présent. Et dont je me sers le plus possible. Une partie, parce que ces 11,5 millions dont nous parlons, on ne les a jamais sortis, c'est le PFL. Je rappelle d'ailleurs que c'est de l'argent public, le PFL. J'en suis un administrateur et je suis déjà allé à une séance. Un, ils ont fait le portage à notre place. Deuxièmement, ils font le travail à notre place de démolition. Ils en payent une partie, ils vont en payer de plus en plus. On vient de délibérer, ils vont davantage payer. Hein ? Je crois que c'est 90%. La dernière délibération à laquelle je suis allé, le reste des travaux de démolition, ce sera pour eux à 90% comme si on était une friche sidérurgique. Hein ? C'est une délibération qui a été proposée par l'Assemblée de l'EPFL. Et donc, ce sera mieux pour nous. Et puis, les frais de gardiennage, etc., on en paye la moitié. Donc, c'est mieux que si c'était, que s'ils n'existaient pas. Et croyez-moi, il n'y en a pas partout des EPFL. Hein ? Et moi, je prie le ciel que ça continue, parce que dans ACAL, il faut qu'on garde notre EPFL. Et donc, ça, c'est à retenir. Vous avez posé plusieurs fois la question, madame. Qu'est-ce qui se passera après ? Ben, c'est un sujet très important, je vous le glisse dans le creux de l'oreille, on a tous intérêt à faire gaffe. Voilà, je voudrais conclure. Faites-nous un tout petit peu confiance, on vous explique le plus possible. Il y a pour l'opposition, n'ayez pas peur, on vous dit le maximum. Moi, ça me paraît bien d'avoir une opposition qui pose plein de questions, comme ça, moi, je sais tout, parce qu'on vous répond, et donc pour ça, on me répond aussi. Et c'est très bien l'opposition, en fait, pour ça. Et donc, moi, je vous demande d'approuver ce projet, parce que ce projet, il sera approuvé par la population. Et dans l'ensemble, je peux vous le dire, il est déjà approuvé par la population. Je vous remercie. Alors, on va voter. Alors, qui est contre ? Explication de vote. Alors, expliquez votre vote.
Monsieur le maire, d'après les propos du rapporteur, heureusement que j'étais en commission des finances pour ramener, malheureusement, de 137 à 85, ce que j'ai compris. Ce qui montre que la négociation était ce qu'elle était au moment donné, mais elle était voulue par les deux parties, puisque présentée à la presse. C'est quand même un chiffre important. Et je rebondis sur ce qui a été dit sur le prix du stationnement et sur un parking qui ne sert à rien. Vous avez raison et tort, monsieur le maire. Raison sur le fait que ça ne vaut rien, comme pouvaient affirmer les services, mais ça vaut beaucoup. Parce que, ce que vous avez dit, monsieur le maire, ça va conduire à quoi de vendre ces places de stationnement ? Ça va éviter à ce que les promoteurs construisent des parkings en moins 2, moins 3, et qu'ils évite de faire des fouilles. Fouille, qui est une richesse pour la ville, et non pas un coût. C'est une richesse de découvrir l'abbaye de Saint-Arnoux, etc. Et les fouilles, monsieur le maire, sont à la charge de qui ? Pas de la ville, à la charge du promoteur. Donc, les promoteurs auraient dû sortir l'histoire de Metz à leurs frais. Donc, on leur fait un cadeau extraordinaire en leur mettant 85 de places de stationnement
Et c'est pour ça que je trouve que le prix de 17 000 euros n'est pas si stupide que ça, fait par les domaines, puisque en valeur de remplacement, ça vaut bien 17 000 euros. Troisième point, monsieur le rapporteur, sur le calcul, j'ai pris vos chiffres, et on va juste conclure là-dessus. Vous étiez à 15 850 000. Il faut bien rajouter, monsieur le rapporteur, le prix des places cédées, obligatoirement. Si je rajoute les prix des places cédées, qui est 1,5 million, et que j'enlève les 2 millions de recettes escomptées par ce qui ne va pas être construit tout de suite, pas être vendu tout de suite, ou vendu tout de suite, excuse-moi. Donc je fais 16 millions plus 1,5 million, 17,5, moins 2. J'arrive à 15,5 millions.
Et qu'est-ce que vous votez ?
Non, monsieur le maire, je comprends que vous vouliez couper court là où ça fait mal. Là où on voit que ce n'est pas 2 millions, comme j'avais estimé, mais c'est 2,5 millions que la ville va perdre, au vu de ce qui a été évoqué, les chiffres qui ont été donnés par monsieur le rapporteur.
Et vous votez ?
Donc c'est une perte de 2,5 millions. Je reprends un quatrième élément pour que tout le monde comprenne bien et qu'il puisse voter. Aujourd'hui, et monsieur alors, le président de la commission des finances pourra...
Et vous votez quoi ?
Monsieur le maire, vous avez vous-même dit que c'était un des points les plus importants. Le président oui. d'un groupe a dit que c'était le point le plus important.
Ça fait bientôt 3 minutes que vous expliquez votre vote.
Je pense que sur une affaire à 12 millions d'euros,
on est angoissé de savoir ce que vous allez voter.
On peut prendre un temps certain pour expliquer son vote parce que le moment est réellement important. Donc, monsieur le maire, je sais que ça vous embête au point, à un point énorme parce que
c'est l'explication du vote de votre
une
groupe.
Une erreur de gestion. Parce que je vous donne juste un exemple. Les 2 millions d'euros. Les 2 millions d'euros.
Je fais voter, ça suffit. Qu'est-ce qui va être
explication
de vote ? Explication de vote.
Mais non.
Explication de vote.
Moi aussi. Moi.
Monsieur, attendez. Bonjour.
Merci de laisser parler, monsieur Aldrin.
Oui, merci, monsieur le maire. Alors, je dois dire que je n'ai pas été convaincu par les réponses du rapporteur, qui a commencé sa démonstration en nous disant, je le cite, « Nous allons même, je pense, gagner de l'argent » et qui, dans son bilan, nous fait quelque chose à l'équilibre, premièrement. Deuxièmement, vous nous dites, au fond, vous avez découvert cette valorisation des 17 000 euros, là, il y a quelques jours, peut-être même quelques heures. Ce que je trouve personnellement problématique au regard de ce qui a été annoncé, ce chiffre de 137 places, ramené à 120, puis à 85, sans qu'il y ait d'explication là aussi précise et cohérente là-dessus. Par conséquent, nous ne pouvons pas nous prononcer dans ces conditions et nous ne prenons pas part au vote.
Explication de vote.
Oui, j'ai voté contre pour une raison bien simple. Sur le point 1, donc le rapport sur le développement durable et donc l'artificialisation des sols, on n'a eu aucune réponse du maire, ce qui est tout à fait extraordinaire parce que le maire d'habitude répond sur tous les points, là, aucune réponse. Là, on est vraiment dans l'application, à savoir que pourquoi faire appel à des promoteurs ? Juste à côté, on a le quartier de l'amphithéâtre, on va tout bétonner sur le quartier de l'amphithéâtre. Recréer un espace vert à cet endroit-là, ce n'était pas complètement stupide, ça permettait à la ville de respirer. Alors, les anciens bâtiments, on a beau dire que les gens les quittent, mais bon, c'est un peu... Je veux dire, ils les quittent, pourquoi ? Parce qu'ils sont plus aux normes, etc. Mais le plus simple serait quand même de les rénover plutôt que de dire, ben voilà, les bâtiments sont plus aux normes, on les jette, on va en construire d'autres ailleurs, et puis les anciens, on ne sait pas ce que ça va devenir. C'est quand même une vision un peu à court terme. Dire qu'on va en faire, on a des entrepreneurs qui sont là, des gens qui veulent investir, donc il y a de l'argent qui court. Ceci dit, c'est en partie de l'argent public, parce qu'on sait très bien derrière qu'il y a des avantages fiscaux, notamment pour les maisons de retraite. Donc pour toutes ces raisons, je vais voter contre, parce que je pense qu'il y a une vision de la ville à 15-20 ans sur son développement et sur les espaces qui doivent être préservés qui manquent.
Y a-t-il d'autres explications de vote ? Monsieur Gourlot, allez-y.
Très léger, oui. Non,
mais je vous en prie.
Je partage de toute façon tout ce qui a été dit par mes collègues dans cette opposition. Hein. Pour l'heure, je suis dans les ténèbres d'un cabinet de réflexion et vos lumières ne m'ont pas éclairé, si j'ose dire. Ne pas convaincu.
Et donc, vous votez ? J'ai pas entendu. Contre. Alors, on y va. Qui est contre ? Ah, madame. Ben, je croyais que monsieur Lebout avait parlé au nom de votre groupe. Non, mais vous avez dépassé votre temps. Ah bah, excusez-moi, madame. Allez-y. Donc, qui ne participe pas au vote ? Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 qui ne participent pas au vote. Oui, non, mais c'est clair. Qui vote contre, alors ? Alors, 1, 2, 3, 4, 5 qui votent contre.
C'est la cohérence.
Et donc, qui s'abstient ?
Non.
Il n'y a pas d'abstention ? Eh bien, très bien, voilà, il y a des gens qui ne participent pas au vote. Il y a des gens qui votent contre et il n'y a pas d'abstention et les autres sont pour. Je vous remercie.